Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Un week-end en rouge et noir. Les autoroutes de l'Hexagone engorgées d'automobilistes aujourd'hui pour ce nouveau chassé-croisé. On fait un détour par le PC Mobilité dès le début du journal. Aux États-Unis, la tuerie d'El Paso visait bien la communauté mexicaine. Le tireur d'extrême droite est passé aux aveux en garde à vue. Comment remobiliser les citoyens sur la question de la privatisation d'aéroport de Paris? Les initiateurs de la pétition pour l'organisation d'un référendum se préparent à relancer la collecte des signatures à la rentrée. Et puis, vous connaissiez certainement ces grandes sculptures faites de tiges métalliques. Le sculpteur grec Takis s'est éteint hier à 93 ans.
Les deux invités de la matinale, 7h50, Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre spécialisée dans l'accueil d'enfants migrants et d'enfants de migrants. 8h20, le grand entretien avec Françoise Dosset, spécialiste des questions russes, au moment où Vladimir Poutine fête ses 20 ans à la tête de la Russie et la contestation qui monte également dans le pays.
France Inter.
Du monde, beaucoup de monde attendu sur les routes aujourd'hui.
Bison futé, voie rouge sur une grande partie du pays, dans le sens des départs, noir dans le sud-est, dans le sens des retours, c'est orange. Bonjour Pierre-Antoine Lefort.
Bonjour Julie, bonjour à tous.
Vous êtes au PC Mobilité, ça commence déjà à coincer.
Oui, ce matin, certains d'entre vous ont déjà pris la route. Hein. L'autoroute A7 commence déjà à être un peu encombrée. Vous mettez 1h20 pour rejoindre Valence depuis Lyon, contre 45 minutes en temps normal. La 10, elle aussi, commence à se chargé légèrement, un peu avant Orléans et à l'arrivée sur Bordeaux. Ce n'est qu'un avant-goût. Hein. Cette situation risque d'empirer au fil de la journée. On le rappelle, bison futé, voie rouge au niveau national, noir même sur l'arc méditerranéen et en Auvergne-Rhône-Alpes. Du monde donc à prévoir sur l'A7 jusqu'à Marseille, sur l'A9 vers Montpellier et puis bien sûr l'A10 vers la côte atlantique. Un conseil, ne pas rejoindre ou quitter les grandes villes après 10h ou avant le milieu d'après-midi.
Merci Pierre-Antoine Lefort au PC Mobilité de Radio France. Alors déjà plusieurs kilomètres de bouchons samedi dernier, 760 kilomètres de bouchons cumulés ont été comptabilisés par Bison Futé. Mais comment l'organisme parvient à anticiper, à calculer en temps réel ces embouteillages? Almeria Seneca, chargée de prévision de trafic, détaille la méthode.
On a tout d'abord un historique de trafic dans lequel en fait on trouve l'ensemble des données de trafic depuis quasiment 1993. On va le combiner avec les dates des vacances scolaires, les dates des jours fériés ou des ponts. La combinaison de ces deux éléments permet d'obtenir un nombre de véhicules que l'on va prévoir sur chaque axe du réseau routier. On se concentre essentiellement sur le réseau routier national, c'est-à-dire autoroute et une partie des routes nationales. La mesure en temps réel des bouchons, elle est faite par les gestionnaires qui nous remontent les informations sur leur réseau où ils nous informent du kilomètre de chaque bouchon. On a des capteurs de comptage situés dans la chaussée. Toutes les informations concernant les gestionnaires sont remontées à Bison Futé et elles sont donc toutes agrégées dans nos serveurs par région et puis ensuite au niveau national. Et donc c'est là qu'on obtient donc ce fameux kilomètre de bouchon qui vont permettre le calcul des prévisions pour les années à venir.
Almeria Seneca au micro de Clément Paulin. Pour eux aussi, ça bouchonne. Les hôtels et les campings, les professionnels de l'hôtellerie sont à pied d'œuvre. Ils jonglent entre les départs et les arrivées des vacanciers. Et sur Airbnb, les particuliers sont de plus en plus nombreux à faire appel à des conciergeries. Remise des clés, ménage, état des lieux, ces professionnels se chargent de tout. En Indre-et-Loire, où plus de 3000 logements sont référencés sur la plateforme de location, la période est synonyme de grand rush pour ces conciergeries, comme à Tours, François Desplans.
Pas de soucis particuliers?
Non, rien du tout.
Ça y est, les clés sont récupérées. Encore une dernière formalité.
Voici votre chèque de caution en vous remerciant.
Et Isabelle Calafior peut raccompagner ses touristes de Lorraine sur le départ.
Bon retour, bonne journée,
à bientôt.
Allez, pas une seconde à perdre, place maintenant au ménage. Récupérer les vieux draps, mettre les nouveaux.
Alors, il faut être assez rapide, parce que je vais enchaîner après sur deux autres locations à remettre en état. C'est du sport. Ah, je sors de là, oui, j'ai fait ma journée de sport. Demain, j'ai une sortie de location et j'ai 4 lits doubles à faire et 4 lits d'enfants. C'est ça ce qui prend effectivement le plus de temps.
Sur un gros samedi du mois d'août, c'est en moyenne 3 départs et 3 arrivées assurées pour Isabelle avec le ménage au milieu. Un gros travail hein, pour soigner l'accueil des locataires et soulager bien sûr les propriétaires. Jean-Dominique en est ravi.
Compte tenu que ma femme travaille beaucoup et je travaille aussi, il n'était pas possible pour nous d'accueillir tout le temps les personnes, enfin c'était très délicat, il fallait courir, il fallait donc la conciergerie a tout à fait répondu à ce besoin.
Mais tout cela a un prix, bien sûr. Jean-Dominique reverse à Isabelle à chacune de ses locations 20% de ce qu'il touche.
François Desplan de France Bleu Touraine.
Le caractère raciste de la tuerie d'El Paso ne fait plus de doute.
Une semaine après la fusillade qui a fait 22 morts et 24 blessés dans un hypermarché du Texas, le tireur voulait s'en prendre à la communauté hispanique. Il l'a reconnu pendant son interrogatoire, Loïc Piala.
Les Français connaissent la formule par cœur grâce aux films américains. Aux États-Unis, toute personne arrêtée a le droit de garder le silence. Patrick Crucius, le suspect de la fusillade d'El Paso, semble lui disposé à parler depuis son arrestation. Il a expliqué aux policiers avoir roulé 10 heures de chez ses grands-parents près de Dallas jusqu'à El Paso, armé d'un AK-47 et de plusieurs chargeurs. Il voulait cibler, dit-il, des Mexicains. Un manifeste, publié samedi dernier sur Internet et dont il serait l'auteur, prévenait d'une attaque en réponse à, je cite, « l'invasion hispanique du Texas ». Crucius a bien trouvé des Mexicains. Il y en aurait au moins 7 parmi les personnes tuées, mais aussi des Américains d'origine hispanique dans une ville à 80% latino. Il devrait être poursuivi pour terrorisme et risque la peine de mort. Cette fusillade et les autres effraient au-delà des frontières américaines. L'Uruguay et le Venezuela font partie des pays conseillant à leurs ressortissants de rester sur leur garde aux États-Unis en raison du racisme et de la violence par arme à feu. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Et dans ce contexte, Donald Trump s'est dit favorable à, je cite, des mesures de bon sens sur les ventes d'armes, tout en réitérant son soutien sans faille à la NRA, le puissant lobby pro-armes.
Une nouvelle agression d'un maire dans le Puy-de-Dôme.
Le maire de Saint-Mion, Jean-Pierre Muselier, a été agressé au couteau par le fils d'une habitante qu'il rendait visite. Il n'a pas été touché, mais son adjoint a été légèrement blessé en voulant dévier l'arme. Une agression qui intervient le jour des obsèques de Jean-Mathieu Michel, le maire de Signes dans le Var, tué accidentellement lundi dernier lorsqu'il s'opposait à un dépôt illégal de gravats. Elle patine. La pétition pour l'organisation d'un référendum sur la privatisation d'aéroport de Paris. En plein cœur de l'été, difficile de mobiliser sur le sujet. Ses initiateurs veulent pourtant franchir rapidement le cap des 1 million de signatures, mais il en faudra 4 700 000 pour espérer lancer le référendum. Ils ont jusqu'au 13 mars prochain pour les atteindre. Et Karine Bécard, ils comptent sur la rentrée pour relancer la mobilisation.
Deux mois après le lancement de la pétition en ligne, la bonne dynamique du début a sérieusement ralenti. 15 jours avaient suffi pour rassembler les 450 000 premières signatures. Or, elles viennent seulement de dépasser les 615 000 aujourd'hui. Alors la faute à la période estivale, mais pas seulement. Le secrétaire national du Parti communiste critique toujours la qualité du site internet mis en place par le gouvernement, Fabien Roussel.
C'est pas normal de la part d'un président de la République qui se dit le chef d'une start-up nation et qui soit un fichu de mettre en place un site internet digne de ce nom. Ça devrait être beaucoup plus accessible. Là, on est à l'époque du Minitel. Ils se moquent un petit peu de nous quand même.
Le PCF a donc décidé de distribuer 100 000 tracts pour aider les personnes intéressées à remplir cette pétition en ligne. Maintenant, à droite, le député LR Fabien Di Filippo semble moins stressé. Depuis le début, il a tout misé sur la rentrée.
Si on rentre trop vite dans la bataille avant les vacances, il risque d'y avoir de la déperdition. Par contre, à partir de la rentrée et avec l'approche de la période budgétaire, ce sera le bon moment vraiment pour monter en puissance. Donc j'ai gardé toutes mes cartes touche pour la rentrée, à vrai dire.
Donc la vraie bataille pour ce référendum contre la privatisation d'ADP n'aurait pas encore commencé, certes. Reste une difficulté tout de même pour les tracts ou pour les meetings. Aucun moyen financier n'a été donné au parti pour mobiliser.
Karine Bécard et Takis s'en est allé.
Le sculpteur grec s'est éteint hier à l'âge de 93 ans. Takis, de son vrai nom Panayotis Vasilakis, était considéré comme l'un des fondateurs de l'art cinétique, des œuvres où certaines parties sont en mouvement perpétuel. Connu entre autres pour ses signaux, ses grandes tiges métalliques visibles dans plusieurs capitales, Mailleul de Charon, notamment dans le quartier de la Défense, à Paris.
À la Défense, 49 tiges de fer de plusieurs mètres s'élèvent depuis un bassin, le bassin Takis, à leur bout des ampoules. Une idée venue au sculpteur lors de son arrivée en France au début des années 50 et qui fera son succès. Alfred Paquement a été commissaire de plusieurs expositions consacrées à Takis, la dernière en 2015 au Palais de Tokyo.
Ce qui l'inspire, c'est à la fois le paysage industriel, le paysage urbain. Au départ, c'est la vision des gares. Lorsqu'il se rend pour la première fois à Londres, il passe par Calais, il voit cet enchevêtrement de signaux ferroviaires qui le frappe beaucoup.
Autre exemple de son travail, des signaux éoliens avec cette fois des pales au bout des tiges. Toujours cette même fascination pour la science qui l'a conduit par la suite à repousser les limites.
Les sculptures ou les peintures télémagnétiques ou un élément métallique suspendu dans l'espace par un aimant qui est par exemple sous une peinture ou sur un mur. Et ça a pu donner une troisième catégorie très importante et très représentative de son travail. Qu'il appelle les sculptures musicales, où cet élément magnétique touche une corde de piano et produit un son.
Après avoir passé la majorité de sa vie à Paris, le sculpteur rentrera en Grèce en 1986. Il y avait fondé le Centre de recherche pour l'art et les sciences.
Mayol de Charon, et une grande rétrospective est consacrée au sculpteur en ce moment même, à la Tate moderne de Londres.
Merci Julie Paco. On prend des nouvelles du temps avec Jean-Pierre Rameau. Jean-Pierre, c'est une journée un peu plus calme, on va dire, aujourd'hui.
Oui, effectivement, Laetitia, les dernières pluies orageuses intéressent encore la région lyonnaise, le nord des Alpes et l'est de la Franche-Comté et de l'Alsace. Elles vont rapidement s'évacuer vers la Suisse et l'Allemagne. Ce matin, le ciel sera généralement partagé entre éclaircies et passages nuageux, porteurs de quelques averses résiduelles et plutôt dans le nord-ouest. Seuls la Corse et le pourtour méditerranéen profiteront déjà du soleil. Et puis cet après-midi, les éclaircies seront beaucoup plus franches, excepté du côté des Landes et des Pyrénées où les nuages feront de la résistance. L'ensoleillement restera généreux dans le sud et le sud-est. Attention au vent de sud-ouest qui va souffler entre 70 et 100 km/h le long des côtes de la Manche. Prévoyez 50 à 70 km/h dans la moitié nord du pays. Et puis les maximales seront en baisse, généralement comprises entre 20 et 28 degrés, comptez 30 à 35 dans le sud. Dans le détail, on attend 20 degrés à Brest, 25 à Lille, 26 à Bordeaux, 27 dans la capitale comme à Nancy et Strasbourg. Prévoyez 28 à Lyon et Toulouse, 32 à Perpignan et 35 à Nîmes.